Bien, bah écoutez, aujourd'hui on va voir essentiellement les arbres généraux, qui donc, comme leur nom l'indique, sont une généralisation des arbres binaires. On va voir donc les fonctions qui permettent de manipuler les arbres généraux, et notamment le schéma général récursif sur les arbres généraux, qui va illustrer un nouveau concept qu'on appelle celui de récursion croisée. Alors allons-y, les arbres généraux. Alors, je vous montre tout d'abord un arbre général, et vous voyez effectivement que par rapport aux arbres binaires qu'on avait eu précédemment, un arbre général a la possibilité d'avoir un nombre de branches issues de chaque nœud qui peut être quelconque. Donc vous voyez notamment que le nœud qui se trouve ici, Dominique, a 3 branches qui sont issues de lui, que le nœud qui s'appelle Pierre n'en a aucune, que le nœud qui s'appelle Claude n'en a qu'une seule, et que le nom qui s'appelle Mathieu en a par exemple 4. Donc d'une certaine manière, les arbres généraux correspondent à des arbres beaucoup plus riches, puisque par exemple, les noms de domaines sur Internet avec les machines correspondent à des arbres généraux et non pas à des arbres binaires. Toutefois, en fait, les arbres généraux et les arbres binaires ont exactement la même puissance d'évocation, puisqu'en fait, on peut encoder n'importe quel arbre binaire en un arbre général, et n'importe quel arbre général en un arbre binaire. Alors, encoder un arbre binaire dans un arbre général, c'est trivial, puisqu'un arbre binaire, d'une certaine manière, c'est un arbre général où on a ajouté une contrainte supplémentaire qui est que, à un nœud, il ne peut y avoir que 2 fils particuliers, et il y a une feuille un peu particulière qu'on appelle l'arbre vide, qui est l'arbre binaire vide. Donc, les arbres binaires sont des arbres généraux, ça c'est évident. Maintenant, les arbres généraux peuvent être représentés par des arbres binaires avec un encodage assez, comment dire, simpliste, qui est le suivant. À chaque fois que dans un arbre général, vous avez par exemple un nœud A qui mène à des nœuds B, C et D, par exemple, pour prendre le cas d'un nœud ternaire, en fait, vous pouvez le représenter comme un arbre binaire qui, en A, posséderait effectivement un nœud B, puis ici aurait un nœud, si vous voulez, un nœud qu'on appellerait continuation, qui continuerait C, puis un nœud continuation qui mènerait vers D, et enfin ici, l'arbre vide, comme d'habitude. Donc on voit en fait qu'un arbre NA, un arbre général, en fait, peut être représenté par un arbre binaire avec un nœud, avec une étiquette un peu particulière qui dit « je ne suis qu'une continuation de l'étiquette qui est là », donc le nœud étiquette est ici, et vous retrouvez en fait là, là et là, les 3 fils qui se trouvent ici. Donc on peut encoder l'un par l'autre et l'autre par l'un, ce qui veut dire d'une certaine manière qu'ils ont exactement la même puissance de représentation. Toutefois, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est donc les arbres généraux parce que, étant d'une certaine manière plus généraux et plus libres, on va voir qu'il y a un certain nombre de calculs qui s'expriment mieux sur des arbres généraux que sous la forme d'arbres binaires avec cet encodage-là. Mais il faut bien savoir qu'au point de vue théorique, ça a exactement la même puissance. Alors un arbre général, c'est quoi exactement? Eh bien, on a introduit un nouveau type qu'on appelle arbre général, et là encore, ce type est paramétré par un paramètre de type alpha, qui est que un arbre général, ça a des étiquettes, et le type des étiquettes, c'est des nombres, des chaînes de caractères, des polynômes, des matrices, des dessins, ce que vous voulez, mais ça peut être un arbre général de n'importe quoi. Le n'importe quoi définissant bien sûr la nature des étiquettes que l'on met sur les nœuds de l'arbre général. Alors, la définition d'un arbre général est encore une fois une définition récursive. Les arbres sont des structures de données récursives qu'on manipule de façon récursive. Et un arbre général, c'est quoi? C'est un nœud qui possède une étiquette qui a le type alpha, et sur ce nœud, vous avez en fait l'ensemble des fils, c'est-à-dire l'ensemble des branches qui en partent. Et pour chacune des branches, en fait, vous avez non pas un nœud particulier, mais éventuellement un arbre, général qui en est issu. Donc d'une certaine manière, pour un nœud, vous avez une étiquette, et pour ce nœud, vous avez en fait une liste de sous-arbres généraux qui se trouvent dessous. À chaque fois que vous avez un nœud, vous avez ici une liste d'arbres généraux. Vous avez l'arbre général qui est le premier sous-arbre, l'arbre général qui est le deuxième sous-arbre ici, et l'arbre général qui est le troisième sous-arbre. Et alors, comme on a une liste de sous-arbres, et qu'on aime bien nommer les choses, comment dire, et que donc on a une séquence d'arbres, et bien une séquence d'arbres, ça s'appelle une forêt. Et donc, en fait, un nœud, c'est quoi? C'est une étiquette et une forêt. La forêt étant justement l'ensemble des branches qui poussent à partir du nœud. Chacune des branches étant assimilée au sous-arbre auquel elle mène. Donc voici la définition, donc. Un arbre général, c'est donc une étiquette et une liste de sous-arbres. Cette liste de sous-arbres de type arbre général, c'est donc une liste d'arbres généraux. Et comme ça, c'est un type un peu, comment dire, longuet à écrire, on écrit simplement que c'est une forêt de alpha. Donc forêt de alpha, c'est une abréviation pour dire c'est une liste d'arbres généraux de type alpha. Ou les étiquettes ont le type alpha. Alors, là-dedans, en fait, vous remarquerez une première chose, et c'est ce qui est marqué ici en remarque, il n'y a pas d'arbre général vide. Okay, je répète, dans les arbres binaires, à partir du moment où on avait imposé à chaque nœud d'avoir un fils gauche et un fils droit à condition qu'il ne soit pas vide, vous étiez obligé d'une certaine manière, pour terminer un arbre, d'avoir une espèce de bouchon terminateur disant « ceci est l'arbre vide et il n'y a rien derrière ». Dans un arbre général, vous n'avez pas d'arbre vide. Vous avez simplement des feuilles, comme par exemple ici, et la feuille ici, pierre, en fait, est un arbre général qui a une étiquette, mais qui n'a pas de forêt, qui a une forêt vide sous. Et être un nœud avec une forêt vide, c'est-à-dire être un nœud dans lequel il n'y a aucune branche qui ne pousse, c'est ce qu'on appelle en terminologie arborescente ou arboricole, c'est être une feuille. Donc voyez en fait cet arbre-là. Cet arbre-là a pour racine Dominique. Dominique est un nœud dont l'étiquette est la chaîne de caractère Dominique. Et ce nœud a pour forêt, la forêt correspondant à l'arbre qui a pour racine Paul, l'arbre qui a pour racine Claude et l'arbre qui a pour racine Jacques. Maintenant, si vous descendez, vous avez donc à partir de Dominique trois branches qui mènent vers ces trois sous-arbres généraux. Et par exemple ici dans Paul, vous avez une branche qui mène vers Marie. Marie donc est un sous-arbre et c'est un sous-arbre dont la descendance est vide, c'est-à-dire que c'est une feuille. Être une feuille, c'est simplement dire que l'on est un nœud pour lequel il n'y a aucune branche qui sorte, et donc pour lequel la forêt est vide. Donc voici l'arbre, voici sa représentation graphique. La différence est effectivement qu'avec un arbre binaire, quand on ne mettait rien, ça voulait dire en fait qu'on avait un fils gauche et un fils droit qui était l'arbre vide. La différence ici avec un arbre général, c'est que quand on ne met rien, ça veut dire que la forêt en dessous est vide. Et comme je le rappelle que la forêt est une liste, ça veut dire que la forêt ici est la liste vide. Alors, regardons quelle est la barrière d'abstraction, c'est-à-dire, je ne veux pas savoir comment sont représentés en mémoire les arbres généraux, c'est un problème, pour dire, qui n'a rien à voir avec ce que l'on fait, et en fait, on veut manipuler les arbres généraux simplement par le biais d'une série de fonctions qui sont capables, encore une fois, de les construire, de les introspecter de manière à savoir ce qu'ils ont dans les tripes, si tant est qu'on puisse parler de tripes pour un arbre, et ensuite de les reconnaître éventuellement lorsqu'il y a plusieurs sous-cas d'arbres. Alors, comment construit-on les arbres? Eh bien, toutes les fonctions de la barrière d'abstraction des arbres généraux sont préfixées par AG- pour arbres généraux. Rappelez-vous que toutes les fonctions de la barrière d'abstraction des arbres binaires commençaient par AB-. Les fonctions manipulant les arbres généraux sont des fonctions qui commencent par AG-. AG-nœud est la fonction qui permet de créer un arbre général. On va voir sa signature exacte dans peu de temps. Vous avez à partir, AG-nœud, ça prend quoi? Ça prend une étiquette et ça prend une forêt. Quand vous donnez une étiquette et une forêt, vous avez construit un nouveau nœud. Vous avez donc maintenant deux accesseurs qui permettent de dire, si vous me donnez un nœud, je peux en extirper l'étiquette ou je peux en extirper la forêt qui est associée à ce nœud. Donc ça, c'est AG étiquette et AG forêt. Donc vous retrouvez les deux composants que vous mettez dans AG nœud, comme bien sûr toutes les fonctions que vous avez pu voir auparavant qui manipulent les barrières d'abstraction. Et enfin, en termes de reconnaisseur, c'est inutile parce que un arbre général ne peut être qu'un nœud et il n'y a aucun autre choix possible. Alors que rappelez-vous, dans les arbres binaires, on avait l'arbre binaire vide et l'arbre binaire plein d'une certaine manière. Celui qui avait deux fils, de gauche et droit, une étiquette. Ici, vous n'avez que le nœud, il a une étiquette, une forêt. La forêt peut être vide, certes, mais c'est quand même une forêt. Alors, les forêts sont des listes, ce qui veut dire que quand on manipule les forêts, eh bien on fait des récursions sur les listes, c'est-à-dire que faire une récursion sur une forêt ou une récursion sur une liste, c'est exactement la même chose puisque les forêts sont des listes. Alors allons-y, regardons exactement, plus précisément, les signatures des différentes fonctions de cette barrière d'abstraction. Donc AG nœud, le constructeur, dit, si vous me donnez une étiquette de nature alpha et une forêt d'arbres généraux dont les étiquettes sont de type alpha, de manière à ce qu'il y ait bien cohérence, alors je vous rends un nouveau nœud, qu'on appelle un arbre général, dont l'étiquette est alpha. C'est simple. Et donc, forêt, j'ai rappelé que c'était liste d'arbres général de alpha. Et donc, AG nœud, une étiquette et une forêt, vous créez un nouveau nœud. Et donc, par exemple, quand... Excusez-moi, il y a une scorie ici, cette accolade n'a pas à être là. Quand vous demandez AG nœud, étiquette 3, forêt, vide, vous créez un objet qui apparaît dans Dr. Scheme sous la forme d'un objet comme ça et qui représente un arbre totalement opaque que vous ne pourrez manipuler qu'avec les fonctions de la barrière d'abstraction. Donc ceci en fait construit un arbre qui a une étiquette qui est 3, donc voici un nœud avec une étiquette qui est 3, et une forêt qui est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a strictement rien en dessous. C'est l'arbre le plus, je dirais, élémentaire, c'est l'arbre qui correspond à une feuille, et c'est un arbre, vous la pouvez, assez rikiki. Alors, faisons un arbre un peu plus touffu. Voici un let étoile qui permet de faire une série de définitions. G1, c'est l'arbre qui correspond à la feuille 2. G2, c'est l'arbre qui correspond à la feuille 3. G3, c'est l'arbre qui correspond à la feuille 4. Donc voici, par exemple, 2, 3 et 4, voici ces exemples d'arbres. G4 ici, c'est un nœud qui a comme étiquette 1 et qui a comme forêt G1, G2, G3. C'est en fait l'arbre qui se trouve ici. L'arbre ici, vous voyez, a l'étiquette 1, la voici. Et il a comme forêt G1, G2, G3, c'est-à-dire ces trois feuilles-là. Donc G4, c'est en fait le sous-arbre qui se trouve ici. Maintenant, vous dites, je fabrique G5, qui est un nœud avec l'étiquette 0, le voici, qui possède comme forêt G4, c'est celui que j'ai fabriqué là, c'est celui qui est là. Ensuite, il y a G3, le voici. Ensuite, il y a G2, le voilà. Et ensuite, il y a un arbre avec un nœud qui vaut 5 et qui a comme forêt G1 et G2 encore. Et donc, voici en fait l'arbre qui correspond à cette expression qui est là. D'accord? Donc, c'est à peu près comme les arbres binaires, sauf que maintenant, au lieu de manipuler systématiquement un fils gauche et un fils droit, on manipule à chaque fois une forêt correspondant à l'ensemble des fils que l'on peut avoir. C'est d'une certaine manière la seule différence. Donc regardons maintenant, de façon plus appropriée, les sélecteurs qui permettent de dire, si vous me donnez un arbre général, je vais en extirper l'information qui se trouve dedans. Donc si vous me donnez, il y a la fonction AG étiquette, qui dit, si vous me donnez un arbre général G, je vais vous sortir l'étiquette de ce nœud. Et là, c'est toujours possible, puisque rappelez-vous qu'un arbre général a toujours une étiquette et une forêt. Donc, quand vous donnez un arbre général, il n'y a aucune condition, il y a toujours une étiquette dessus. Rappelez-vous que ce n'est pas le cas sur les arbres binaires, car dans les arbres binaires, il y a les arbres vides, et les arbres vides n'ont pas d'étiquette. Donc là, dans les arbres généraux, c'est d'une certaine manière plus simple, puisque tout arbre généraux, dès que c'est un arbre général, il a une étiquette, on la rend. AG forêt dit, si vous me donnez un arbre général, là encore, je vous ramène la forêt correspondant à ce nœud, c'est-à-dire la liste de tous ses fils. Et donc, la forêt correspondant au nœud A ici, c'est la liste qui dit, eh bien, il y a l'arbre de racine B, l'arbre de racine C et l'arbre de racine D. Donc, voici en fait ce qui se passe là. Alors, prenons un petit exemple. Vous avez ici un arbre G1 qui contient la feuille 2. Alors, on va le représenter au fur et à mesure. Donc, vous avez un arbre G1 qui a la feuille 2. Donc ça c'est 2, et c'est, je mets juste ici pour me rappeler que c'est G1. G2 c'est la feuille 3. Donc voici la feuille 3, ça c'est G2. G3 c'est la feuille 4, voici G3. Et maintenant je fabrique avec G4 un arbre qui a pour racine 1, le voici, et qui a pour fils G1, G2, G3, c'est-à-dire ça, ça et ça. Et ça c'est ce qu'il y a dans la variable G4. Et maintenant on me dit quoi? On me dit... prends-moi l'étiquette du deuxième fils de la forêt de G4. J'ai G4, je prends sa forêt, la voici, je prends son deuxième fils, le voici, c'est en fait celui qui était dans G2, et je dis quelle est l'étiquette? Eh bien, c'est 3. Donc vous voyez en fait là que vous jonglez entre les arbres généraux. Un arbre général ici est passé à la forêt, c'est-à-dire une liste. Sur une liste, vous pouvez prendre le deuxième terme en disant « je veux le quart du coudeur ». Vous obtenez à ce moment-là un nœud, un arbre général, et sur cet arbre général, vous dites « je veux son étiquette ». Donc voyez là que vous avez un espèce de balancement entre le nœud, la liste des fils, le fils qui est un nœud, etc., etc. Donc vous avez un balancement entre nœud et liste de nœuds systématiquement. Alors, les propriétés algébriques, puisqu'il s'agit de ça, c'est exactement les mêmes propriétés algébriques que l'on avait vues sur les conses avec quart et coudeur, c'est-à-dire la réciprocité qu'il y a entre les sélecteurs et le constructeur. On avait vu ça exactement de la même manière sur les arbres binaires, la réciprocité qu'il y a entre le fait de demander l'étiquette, le fils gauche et le fils droit, et le constructeur d'arbres binaires. On a exactement la même chose sur les arbres généraux. À savoir, si vous fabriquez, si vous avez une étiquette V et un arbre et une forêt F, si vous fabriquez un nœud qui dit voilà l'étiquette, voilà la forêt, et que vous demandez immédiatement quelle est l'étiquette du nœud dont l'étiquette est V, eh bien la réponse c'est V. Ou quelle est la forêt du nœud dont la forêt est F, eh bien c'est F. Et là encore, c'est purement algébrique. Ok? C'est exactement comme x2 divisé par x. Ensuite, maintenant, vous avez la réciprocité dans l'autre sens, puisque là, on a une réciprocité, si j'ose dire, à gauche, c'est-à-dire que les sélecteurs sont des inverses à gauche des constructeurs. Vous avez maintenant une réciprocité à droite, qui est que si vous prenez un arbre général G, que vous extirpez son étiquette, que vous extirpez sa forêt, et que vous fabriquez un nœud dont l'étiquette est celle de G et dont la forêt est celle de G, eh bien, c'est pas la peine de faire tout ce calcul-là, écrivez G directement. Fabriquer un nœud dont l'étiquette est celle de G et dont la forêt est celle de G, c'est juste avoir G. Et là, vous n'avez aucune restriction, puisqu'un arbre général a toujours une étiquette et toujours une forêt. Rappelez-vous encore, ce n'est pas vrai sur les arbres binaires, parce que dans les arbres binaires, il y a le cas des arbres binaires vides, pour lequel on ne peut pas prendre étiquette. Rappelez-vous que ce n'est pas non plus la même chose sur les listes, avec conse, quart et coudeur, car pour pouvoir faire quart sur une liste, il faut que la liste ne soit pas vide. La liste est un type de données dans lequel il y a deux sous-cas, vide et plein. L'arbre binaire est un type de données dans lequel il y a deux sous-cas, vide et plein. Et l'arbre général, lui, est un type de données pour lequel il n'y a pas de sous-cas. Il n'y a que le cas général qui est l'arbre général. Et tout arbre général a une étiquette et a une forêt. Alors, continuons et regardons un reconnaisseur dérivé, puisque c'est un reconnaisseur qui n'est pas primitif, on peut l'écrire avec la barrière d'abstraction, qui est quand est-ce qu'on peut reconnaître qu'un nœud est une feuille. Alors, on peut reconnaître qu'un arbre général est une feuille, à partir du moment où sa forêt est vide. Et donc, pour tester que sa forêt est vide, vous prenez un arbre général G et vous dites « un arbre général G est une feuille à condition que sa forêt ne soit pas non vide », auquel cas, notre paire permet de tester la nullité de la forêt de l'arbre général G et donc permet de tester que ceci est une feuille. Alors, dans la barrière d'abstraction que l'on vous donne, qui est donc sur la carte jaune, on a introduit une fonction particulière, simplement pour vous simplifier la mise au point. C'est une fonction que l'on peut écrire en scheme, donc ce n'est pas une fonction primitive. Simplement, elle permet de vous montrer un arbre général d'une façon plus agréable que la simple mention que c'est un objet. Donc voilà la fonction, ça ressemble exactement à AB-expression que vous aviez sur les arbres binaires, qui quand vous lui donniez un arbre binaire, vous fabriquez le morceau de programme qui permettait de reconstruire cet arbre binaire. Eh bien, AG-expression a exactement le même contrat. Si vous lui donnez un arbre général, elle vous rend le programme qui est capable de reconstruire l'équivalent de cet arbre général. Alors, regardons un exemple. Ici, j'ai fabriqué un arbre général 2, 3, 4, 1, G1, G2, D3. C'est exactement cet arbre général-là. Et on dit simplement, reconstruis-moi, donne-moi l'expression qui reconstruit l'arbre général G4. Et le résultat, c'est cette expression qui dit, l'arbre général G4, c'est un nœud d'étiquette 1 et de forêt une liste, où le premier terme est un nœud d'étiquette 2 sans forêt, le deuxième terme est un nœud d'étiquette 3 sans forêt, et le troisième terme, un nœud d'étiquette 4 sans forêt, c'est-à-dire des feuilles 2, 3 et 4. C'est donc bien cet arbre-là qui a été fabriqué. Donc AG expression est une fonction, un utilitaire ou une utilité, comme au théâtre, qui permet effectivement, étant donné un arbre général, de vous montrer l'arbre général sous la forme de l'expression qu'il aurait fallu écrire pour le reconstruire. Alors maintenant, on arrive au problème essentiel qui est comment manipule-t-on des arbres généraux, c'est-à-dire comment fait-on des calculs sur des arbres généraux. Et là, l'idée est de dire que ce à quoi on veut aboutir, c'est à un schéma récursif général permettant de traiter tous les problèmes classiques sur les arbres généraux. Là, la complexité est que un arbre général donc a une étiquette et une forêt, et que pour traiter un arbre général, à quelque niveau que ce soit, vous devez traiter l'étiquette et vous devez traiter tous ses fils. Ses fils forment une liste, donc il faut itérer sur chacun des termes de la liste pour réappliquer le même traitement récursif sur chacun des arbres généraux qui sont ses fils. Donc pour traiter récursivement un nœud, il vous faut traiter l'étiquette du nœud et traiter chacun des sous-nœuds, c'est-à-dire des nœuds représentant les fils du nœud courant. Et donc, regardons de plus près ce que ça donne. Voici le schéma récursif général de ces arbres généraux. Alors, comment ça se passe? Lorsque vous voulez définir une fonction récursive sur un arbre général G, eh bien, il vous faut combiner l'étiquette de cet arbre-là avec le traitement de chacun des nœuds fils. Les nœuds fils s'obtiennent par la forêt de G, et vous devez appliquer un traitement récursif sur la forêt du nœud courant. Traiter la forêt du nœud courant, c'est dire simplement, la forêt ici, rappelez-vous, c'est une liste d'arbres généraux. Eh bien, vous allez appliquer le schéma récursif général sur les listes pour dire, pour traiter la forêt avec, la forêt correspondant à F, eh bien, si la forêt est vide, c'est le cas de base, et si la forêt n'est pas vide, je dois combiner le traitement récursif général sur l'arbre qui est le premier de la forêt avec le traitement récursif général sur le reste de la forêt. Donc ce que vous voyez, c'est qu'effectivement ici, j'ai le schéma récursif général des listes qui consiste à dire il faut appliquer le traitement arbre rec sur chacun des termes de la liste, et ici vous avez un traitement général du nœud qui dit il s'agit de combiner intelligemment l'étiquette avec le traitement récursif de tous les nœuds qui se trouvent dans la forêt du nœud courant. Et c'est là la seule complexité du schéma récursif sur les arbres généraux, c'est ce qu'on appelle une récursion croisée, puisque vous voyez que le traitement d'un arbre général appelle le traitement de la forêt de cet arbre général, et le traitement de la forêt de cet arbre général s'appelle lui-même en termes récursifs, mais appelle aussi le traitement des arbres récursifs ici. Donc cette fonction appelle celle-ci, celle-ci appelle celle-là. Et donc vous avez un espèce de balancement qui est que pour dire, pour itérer sur tous les termes d'une forêt, j'applique le traitement de l'arbre général sur chacun des termes de la forêt, et pour appliquer le traitement des arbres généraux sur chacun des arbres généraux, je dois appliquer le même traitement sur la forêt de chacun de ces arbres généraux. Donc, pour un arbre, il faut traiter sa descendance, et pour traiter la descendance, il s'agit de traiter tous les arbres de la descendance. Et donc, vous alternez entre le traitement d'un nœud, le traitement de la liste issue de ce nœud, qui induit qu'on traite chacun des nœuds de cette liste-là, ce qui introduit qu'on se réintéresse à la forêt des sous-nœuds, puis à la sous-forêt des sous-nœuds, etc., etc. Donc là, vous avez le schéma récursif général. Et là, vous voyez qu'effectivement, c'est un schéma récursif qui utilise deux fonctions en ping-pong, en croisée. Et c'est là la différence, c'est que maintenant, il y a, comment dire, deux fonctions à écrire au lieu d'une pour traiter les arbres généraux. Rappelez-vous que pour les arbres binaires standards, il n'y avait qu'une seule récursion qui était de dire est-ce que l'arbre binaire est vide, 4 bases, ou est-ce qu'il est plein, je traite son fils gauche, son fils droit. Et il n'y avait qu'une seule fonction récursive. Maintenant, on en a deux qui correspondent bien sûr au cas où la forêt est vide ou bien la forêt est pleine et on traite chacun de ces arbres récursivement. Alors, si vous regardez bien en fait, vous apercevez que le schéma récursif qui est là, il est classique. C'est-à-dire, c'est le schéma récursif des listes. Simplement, les listes ici sont des forêts, car rappelez-vous que les forêts sont des listes d'arbres généraux. Et donc, en fait, quand vous regardez ça, vous dites, mais je pourrais faire ça avec map, puisque map, justement, est en fait une... reduce, c'est une fonction qui me permet de combiner tous les traitements des nœuds particuliers de la liste en un seul résultat qui devient le résultat de la liste tout entière. Et donc, une autre façon de voir le schéma récursif général, c'est en fait de dire, mais en fait, le schéma récursif, il peut aussi s'écrire comme ça. Et donc, je vous le montre, parce qu'effectivement, au début, de prime abord, ça paraît un peu compliqué, mais rappelez-vous que le but, justement, des maps et des reduce, c'est de vous cacher complètement la récursivité qui se trouve derrière. Alors allons-y, regardons exactement ce qui se passe. Pour traiter un arbre général, on doit combiner l'étiquette de cet arbre, ça rien n'a changé. On doit le combiner avec quoi? Avec le fait que on applique le traitement récursif sur chacun des arbres de la forêt, c'est ce que le map ici veut dire. Et maintenant, la liste des résultats, on la combine avec un reduce pour dire, ben maintenant qu'on a une liste de résultats sur chacun des sous-arbres, combinez-moi ça en un unique résultat. Donc le map ici permet de, quand vous êtes sur un nœud ici, de dire, appliquez-moi le traitement récursif sur chacun des nœuds. Maintenant que vous avez la liste de chacun des résultats, vous dites à reduce, allez, combine-moi tous ces résultats partiels en un unique résultat qui devient celui de la forêt. Et maintenant que vous avez fait ça, eh bien vous combinez la valeur de l'étiquette avec le traitement de la forêt pour obtenir le traitement du nœud complet. Maintenant, le traitement de la forêt, c'est très simple. Le traitement de la forêt, c'est le fait que sur chacun des termes de la forêt, vous avez appliqué l'arbre récursif. Eh bien, vous pouvez traiter la forêt par cette fonction-là qui consiste à dire j'applique le traitement arbre récursif sur chacun des arbres de la forêt et je combine avec reduce ceci. Cette expression-là qui est là, ici, est inutile lorsque vous donnez cette expression-là, puisqu'en fait, ce qui est ici, et qui est en fait sur ces trois lignes-là, c'est exactement forêt rec de AG forêt de G. Ok? Donc en fait, on écrit ça maintenant en une seule fonction, qui est la fonction qui se trouve ici, et qui permet effectivement de faire le traitement sur tous les termes de la forêt et l'étiquette qui se trouve ici. Alors maintenant, je vous propose simplement d'illustrer en fait ces schémas récursifs en regardant quelques traitements standards des arbres généraux que vous serez amené à faire dans les exercices, voire même à l'examen. Par exemple, je prends un arbre général et je me dis, j'aimerais bien savoir combien il y a de nœuds dedans. Par exemple, vous gérez un domaine internet et vous aimeriez bien savoir combien il y a de machines dans votre domaine internet. Eh bien, pour ça, il faut explorer l'arbre, c'est-à-dire pour chaque nom possible, essayer de savoir si oui ou non il y a une machine particulière qui se trouve dedans. Alors, comment peut-on écrire ça? Eh bien, nombre de nœuds d'un arbre général permet de dire, si vous me donnez un arbre général, je vais calculer combien il y a de nœuds dedans. Eh bien, le résultat est simple. Je prends mon arbre général, j'ai une petite sous-fonction, qu'on va voir tout à l'heure, et ce que vous savez, c'est que quand on vous donne un arbre général, il y a un nœud de plus que ce qu'il y a dans toute la forêt qui se trouve en dessous. Donc en fait, le traitement est simple. Pour savoir combien il y a de nœuds dans cet arbre général, vous dites, je coupe l'arbre général en deux, le nœud et la forêt qui se trouve en dessous, et c'est simplement un nœud, celui-là, plus tout ce qu'il y a en dessous. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir comment on compte le nombre de nœuds qu'il y a dans une forêt. Alors, pour compter le nombre de nœuds qu'il y a dans une forêt, je crée une sous-fonction qui est de dire La sous-fonction nombre de nœuds dans la forêt permet, quand on me donne une forêt, de savoir combien il y a de nœuds dedans. Qu'est-ce que c'est qu'une forêt? C'est une liste. C'est une liste d'arbres généraux. Ce qui veut dire que, pour savoir combien il y a de nœuds dans une forêt, il suffit que je sache combien il y a de nœuds dans chacun des sous-arbres et de faire l'addition. Donc en fait, savoir combien il y a de nœuds dans une forêt, c'est de me dire, si la forêt est vide, il y a zéro nœud, mais si la forêt est pleine, c'est le nombre de nœuds qu'il y a dans le premier arbre, plus le nombre de nœuds qu'il y a dans le reste de la forêt. Ce qui veut dire que ça revient à partager la forêt ici en deux parties, le premier arbre qui est là, et tout le reste de la forêt qui se trouve dans la zone que j'ai représentée ici. Mais maintenant, une fois que vous avez ça, vous continuez, jusqu'à ce que la forêt soit vide, et quand la forêt est vide, ben, il y a zéro nœud dedans. Donc voici le code, en fait, avec cette double récursion croisée, qui est que, pour calculer le nombre de nœuds d'un arbre, on demande, c'est 1 de plus le nombre de nœuds qu'il y a dans sa forêt, et le nombre de nœuds qu'il y a dans la forêt, c'est la somme de tous les nœuds qu'il y a dans chacun des arbres de la forêt. Et c'est simple. La seule difficulté est qu'encore une fois, vous avez cette espèce de ping-pong entre l'arbre et sa forêt. La forêt induisant qu'on calcule pour chacun des arbres qui se trouvent dedans combien, en fait, il y a de nœuds dans chacun des sous-arbres. Donc voici le premier exemple qui permet de calculer le nombre de nœuds qu'il y a donc dans un arbre général. Alors, là, on l'a fait, je dirais, à la main. Maintenant, on va essayer d'utiliser les itérateurs que l'on a vus dans le schéma précédent pour dire, dans le fond, est-ce qu'on ne peut pas simplifier? Là, c'est un petit exemple qui vous calcule combien il y a de nœuds là-dedans. Et effectivement, le nombre de nœuds, alors ça, c'est un arbre un peu plus compliqué que celui-ci, puisqu'il y a 2 fois G1, 2 fois G2, 2 fois G3. Eh bien, pour le nombre de nœuds de G4, c'est effectivement 1 plus le nombre de nœuds qu'il y a dans toute cette forêt-là. Et le nombre de nœuds qu'il y a dans toute cette forêt-là, c'est la somme des nœuds qu'il y a dans chacun de ces arbres-là. Comme il y a ici, ce sont des feuilles, et que les feuilles valent 1 nœud, vous avez en fait ici 6 nœuds, 6 et 1, 7. Donc l'arbre général G4, ici, fait 7 nœuds en tout. Alors, regardons donc avec des maps et des radius ce que ça donne. Le voici, donc premier cas, j'ai dit que le nombre de nœuds d'un arbre G, c'était donc 1 de plus que le nombre de nœuds de la forêt qui se trouvait en dessous. Et le nombre de nœuds de la forêt qui se trouve en dessous, c'est simple, c'est, rappelez-vous, c'est la somme des nœuds qu'il y a dans chacun des arbres. Eh bien, je dis simplement, calcule-moi pour chacun des arbres le nombre de nœuds qu'il y a dedans, ça c'est le map qui permet de dire, je prends la liste des arbres et je rends maintenant la liste des nœuds qu'il y a dedans. Donc ici, j'obtiens ici une liste de nombres et je dis simplement, combine-moi tous ces nombres avec l'addition en partant de la valeur de l'élément neutre, 0. Donc ceci, là, le radius plus 0, permet de me faire la somme des nombres qu'il y a dans la liste des nombres. Donc maintenant, j'ai 1 de plus ce truc-là, j'ai gagné. Mais, rappelez-vous, l'informaticien a non seulement un désir de bien faire, mais un souci d'effectivité. En fait, ce code-là, quand on le regarde, on s'aperçoit que on peut le réduire en une seule ligne, qui est de dire, pourquoi faire plus 1 ici, sur ce résultat? Faire plus 1 dans ce résultat, c'est en fait dire, j'attends ce nombre-là et je fais plus 1. Mais en fait, à quoi sert le 0 qui est ici? À initialiser l'addition. Ben en fait, au lieu d'additionner avec 0 et ensuite d'ajouter plus 1, il suffit de partir de 1. Puisque, rappelez-vous que reduce plus 0, c'est faire la somme de tous les nombres qu'il y a là, plus 0. Mais ce que vous voulez faire, c'est 1 de plus la somme de tous les nombres. Ben, il suffit de dire, fais la somme de tous ces nombres-là en partant de 1. Et donc, en fait, le nombre de nœuds de l'arbre s'écrit en une seule ligne, d'une certaine manière, ou en deux lignes, là, en disant, c'est la somme de tous les nombres qui sont là, plus 1, et ces nombres-là, c'est le fait d'appliquer nombre nœuds arbres sur chacun des arbres de la forêt de G. Et donc ici, vous avez un code particulièrement simple et élégant, et en plus, plus aucune récursion apparente. Vous n'avez plus qu'à réfléchir et vous dire, voyons, j'ai une forêt, j'applique la fonction récursive pour obtenir le nombre de nœuds qu'il y a dedans, et je combine avec reduce plus, mais en ajoutant 1, ici. En fait, ça, c'est encore une fois une identité algébrique, qui est que quand vous écrivez f de un élément e de reduce de la fonction f et d'un élément, disons, e prime, sur une certaine liste L, ça en fait, c'est la même chose qu'écrire reduce de f appliqué à f sur e et e prime sur la liste L. Puisque rappelez-vous que ceci en fait, c'est de dire je combine tous les termes de la liste par l'opérateur binaire f et en mettant e prime tout à fait à la fin. Ça veut dire quand même que l'opération ici, je fais l'hypothèse que l'opération est commutative, sinon ça ne marchera pas. Et donc là, en fait, je combine toujours avec le même opérateur binaire, avec la même liste L, mais au lieu de faire E prime plus les termes de L, plus finalement E, je combine E prime et E, et je les combine ensuite avec tout L. Donc à condition que l'opération soit commutative, ça marche, et c'est une règle algébrique qu'un certain nombre de compilateurs effectuent eux-mêmes directement. Donc voici en fait le nombre de nœuds, et je vous propose de passer à un autre type de calcul, qui serait le calcul de la profondeur d'un arbre général. Vous avez ici un arbre, général, et la profondeur, c'est en fait le nombre de branches que vous devez suivre pour arriver à une feuille qui est la plus profonde. Donc il y a toujours un problème de définition, savoir si on part de zéro ou pas. Si on dit que ça, ici, c'est à profondeur 1, ici, on est à profondeur 2, et ici, on est à profondeur 3. Donc la profondeur d'un arbre, c'est, en termes arboricoles, la hauteur d'un arbre si on lui met la racine en bas. Alors allons-y, regardons comment faire ce genre de choses. Eh bien, là encore, on se dit, pour calculer la profondeur d'un arbre général, eh bien, c'est 1 de plus, donc je découpe toujours mon arbre en le nœud et son étiquette et sa forêt. Si la forêt a une certaine profondeur, il est certain que l'arbre, ici, a une profondeur de 1 de plus. Donc, la profondeur d'un arbre général, c'est 1 de plus que la profondeur de la forêt correspondante. Donc, je ne sais pas quelle est la profondeur de cette forêt-là, mais en tout cas, l'arbre général fait 1 de plus que cette profondeur. Donc, c'est 1 de plus que la profondeur de la forêt. Maintenant, quelle est la profondeur de la forêt? Eh bien, la profondeur de la forêt, c'est de dire, j'ai une forêt, c'est-à-dire une série d'arbres, et je cherche la profondeur maximale, c'est-à-dire celui qui est le plus profond. Eh bien, je fais simplement un max sur chacun des termes de la profondeur pour essayer de trouver le plus profond. Donc allons-y, la profondeur de la forêt dit, s'il n'y a pas de forêt, la profondeur c'est 0, et s'il y a par contre une forêt, eh bien je prends le max de la profondeur du premier arbre avec la profondeur du reste de la forêt. Et là encore, c'est toujours la même chose, toujours la même chose. Bien, alors, une fois que j'ai fait ça, je m'aperçois par exemple ici que la profondeur, ici, c'est 1 de plus que la profondeur de la forêt. La profondeur de la forêt, c'est d'abord, je calcule la profondeur de celui-là, récursivement, j'obtiens 1, je passe sur les détails. Ensuite, je calcule la profondeur du deuxième arbre, je trouve 2. 1 est plus petit que 2, donc la profondeur de ce que j'ai déjà vu, c'est 2. Je calcule la profondeur de celui-ci, c'est 1. J'étais déjà à une profondeur 2, donc la profondeur 1 ne m'intéresse pas. Et donc, le maximum des profondeurs étant 2, la profondeur de l'arbre initial est 2 plus 1, 3. Et donc là encore, vous voyez le balancement qu'il y a entre la profondeur de la forêt et la profondeur de l'arbre. Les deux, comment dire, se calculent en s'aidant mutuellement. Et bien là encore, on pourrait se dire, je peux essayer de faire la même chose avec des maps et des reduce, parce qu'en fait, d'une certaine manière, le schéma qui est là est un schéma récursif extrêmement standard, qui se fait bien avec des reduce. Donc allons-y, pour les mêmes raisons que précédemment, voici l'expression qui permet de conduire exactement au même résultat. la profondeur d'un arbre G, c'est 1 de plus que cette expression-ci. Cette expression-là, rappelez-vous, ça doit prendre le max de toutes les profondeurs. Donc je commence par dire, je prends la forêt et j'applique MAP, la profondeur des arbres généraux, sur chacun des sous-arbres-là. J'obtiens donc ici, comme résultat, la liste des profondeurs des arbres. Ce qui revient à dire, si je demande récursivement ces cerveaux-là, j'obtiens la liste 1, 2, 1, qui sont les profondeurs des trois sous-arbres qui se trouvent là. Et maintenant que j'ai 1, 2, 1 ici, je dis, tu me réduis tout ça à un seul nombre, et le nombre que je veux, c'est le max. Donc prends-moi le max de tous les nombres qui sont là, sachant que j'initialise le calcul avec 0, puisque 0 est effectivement d'une certaine manière, pour les profondeurs, l'élément neutre de max de la profondeur. Ok ? Une profondeur d'un arbre, en général, c'est au moins 1. Donc 0 est effectivement, d'une certaine manière, un élément neutre qui ne perturbe pas le calcul de la profondeur. Donc ceci, en fait, est un, ce qu'on appelle en jargon un one-liner, c'est-à-dire un programme en une seule ligne, qui dit, la profondeur d'un arbre général G, c'est 1 de plus que le maximum des profondeurs de tous les sous-arbres. Et ça se prononce, d'une certaine manière, comme ça s'écrit. Ou ça s'écrit comme ça se prononce. Donc voilà, en fait, encore un calcul sur les profondeurs des arbres, grâce donc à ces techniques. Et je voudrais juste marquer et remarquer que les récursions sur les arbres généraux sont toujours des balancements entre récursion sur arbre, récursion sur liste d'arbres, c'est-à-dire récursion sur forêt. La récursion sur la forêt se calcule en appliquant des récursions sur les arbres, et la récursion sur les arbres se calcule en appliquant des récursions sur les forêts. Et on arrive soit à des, on arrive toujours, au bout d'un moment, à des arbres, comment dire, qui sont avec des feuilles, et des feuilles, c'est des arbres qui n'ont pas de forêt. Donc on tombe sur la liste vide, qui est un cas de base de la récursion des forêts. Donc du coup, ça donne un résultat pour lequel on peut ensuite combiner les résultats des arbres. Alors, je vous propose maintenant un autre calcul encore, qui est, vous vous rappelez quand on a parlé d'arbres en général, et d'arbres binaires particulièrement, de faire des calculs comme par exemple d'arpenter l'arbre de manière à trouver la liste de toutes ces étiquettes, et on avait vu qu'il y avait des parcours en profondeur d'abord gauche-droite, en largeur d'abord, en droite-gauche, etc., etc. Et ensuite, suivant la façon dont on traitait l'étiquette, on pouvait traiter l'étiquette avant ou après, et dans le cadre des arbres binaires, on pouvait traiter l'étiquette entre le traitement de l'arbre gauche et le traitement de l'arbre droit. Dans le cas des arbres généraux, on a un problème qui est que le parcours infixe n'est pas vraiment défini, puisque lorsque vous avez un arbre binaire qui n'a qu'un seul fils, vous ne pouvez pas vous trouver entre le fils gauche et le fils droit, il n'y en a qu'un. Lorsque vous avez un arbre binaire qui a par exemple trois fils, vous pourriez traiter l'étiquette entre le premier et le deuxième fils, ou entre le deuxième et le troisième fils. Vous pourriez aussi la traiter deux fois, c'est-à-dire une première fois entre le premier et le second fils, et une seconde fois entre le second et le troisième fils. Ce qui veut dire que la notion d'infixe dans un arbre binaire, dans un arbre général, n'a pas de sens naturel. Donc en fait, les deux seuls sens qui ont du sens dans les arbres généraux, c'est le traitement des étiquettes infixes, avant, on traite l'étiquette avant de traiter les fils, ou le traitement suffixe, qui consiste à traiter l'étiquette après les fils. Donc là, on demande de dire, j'aimerais bien avoir la liste des nœuds traités en ordre préfixe. Alors, regardons ce que ça donne. La liste des nœuds en ordre préfixe, quand je regarde cet arbre-ci, c'est en fait assez simple. Je parcours l'arbre avec une couleur particulière. On va prendre du rouge. Non, du bleu. Je commence mon traitement en profondeur d'abord gauche-droite. Et je vais faire ceci pour traiter mon arbre. Je l'ai traité donc en profondeur d'abord, puis de la gauche vers la droite, puis en profondeur, de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite, je remonte, de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite. Et donc la liste des étiquettes que je rencontre, puisque je traite les étiquettes avant de traiter les fils, c'est A, puis B, Puis, quand je suis en B, je remonte pour traiter C. C'est ce que veut dire le zigouigoui qui se trouve ici. C. Ensuite, j'ai E, F et D. Et donc, voici l'ordre préfixe des étiquettes des nœuds de mon arbre lorsque je le parcours en profondeur d'abord, de la gauche vers la droite. Donc, c'est ça, en fait, que j'ai envie de calculer dans la fonction qui se trouve ici. Alors, allons-y. J'applique encore une fois le schéma récursif général sur les arbres généraux. Il n'y a pas à réfléchir. J'écris donc la liste préfixe d'un arbre général G, c'est quoi? Eh bien, comme j'ai dit que je traitais l'étiquette en premier, c'est cons l'étiquette du nœud sur lequel je suis. Bien. Ce qui veut dire en fait que je traite l'étiquette avant de traiter la forêt. Donc je dis cons, je fabrique une liste où l'étiquette du nœud courant est la première, et j'appelle maintenant liste préfixe forêt, qui est la fonction qui va traiter la liste des étiquettes en ordre préfixe de tous les sous-arbres du nœud courant. Alors allons-y. Pour traiter la liste des préfixes de la forêt de G, voici la fonction récursive qui dit, eh bien c'est simple, j'ai à traiter une forêt. Une forêt, c'est une liste. Donc, soit la forêt est pleine, soit la forêt est vide. Si la forêt est vide, quelle est la liste des étiquettes d'une forêt qui ne contient pas de nœuds? C'est la liste vide. La voici. Maintenant, si la forêt n'est pas vide, eh bien, ça veut dire que, par exemple, je suis ici, j'ai un premier arbre et j'ai ensuite une forêt encore derrière. Donc, pour arriver à lister en ordre préfixe le premier arbre et la forêt qui suit, je vais dire simplement, je concatène les étiquettes en ordre préfixe du premier arbre avec le calcul récursif des étiquettes en ordre préfixe de tous les autres arbres qui se trouvent dans la forêt. Et donc, ce faisant, je vais dire le résultat, si j'applique mes règles qui sont là, pour le nœud qui est ici, c'est de dire ça commencera par grand A, ensuite, ça contiendra les étiquettes du sous-arbre B, je vais le mettre avec des crochets ici, B, et ensuite ça contiendra les étiquettes de l'arbre, des deux arbres qui se trouvent ici, à savoir, alors ça c'est l'arbre B, les étiquettes de l'arbre C, E, F, et les étiquettes de l'arbre D. Et donc je dis en fait, le résultat c'est A suivi des étiquettes de B, suivi des étiquettes des arbres C, E, F et D. Et maintenant j'ai plus qu'à appliquer récursivement les choses en disant, ben, les étiquettes de l'arbre réduit à B, c'est B, et les étiquettes de ces deux arbres-là, c'est en fait, ici, l'étiquette C, je vais remonter peut-être un petit peu ça, l'étiquette de, comment dire, les étiquettes produites par ça, c'est l'étiquette C suivie des étiquettes de l'arbre E, de l'arbre F, et puis bien sûr, de l'arbre D qui se trouve ici. Et donc, ce faisant, après, eh bien ça donnera E, F et D, et je retrouverai le résultat que j'ai ici. Donc vous voyez en fait que j'explicite en fait simplement dans quel ordre je dois considérer les choses. Alors, vous remarquerez que pratiquement, systématiquement, en fait, chaque fois qu'on me demande un traitement particulier, j'ai une fonction qui est la fonction récursive qui s'applique sur les arbres généraux G, et j'ai une fonction dont le nom en général se déduit en rajoutant forêt, qui est la fonction correspondante qui sait traiter en fait tous les arbres d'une forêt, c'est-à-dire tous les arbres d'une liste. Et donc, le calcul qui est là combine l'étiquette et l'appel à la fonction qui traite la forêt, sur la forêt du nœud courant, et la fonction qui traite la forêt traite chacun des arbres avec sa fonction propre, puis il s'appelle récursivement pour traiter le reste des arbres de la forêt. C'est systématique dans ce genre de programme. Donc voilà en fait le truc. Bien sûr, ce traitement particulier aurait pu s'écrire avec un reduce, en disant, après tout ici, regardez, qu'est-ce que je fais? Je fais la concaténation de tous les résultats qui sont obtenus en appliquant la fonction agliste préfixe sur chacun des arbres de la forêt. Donc je peux écrire que c'est la réduction, enfin ou plutôt la combinaison par append, en partant de l'élément neutre qui est la liste vide, de la liste de tous les résultats obtenu en appliquant la fonction récursive AGLIS préfixe sur chacun des arbres de F. C'est-à-dire que ces 1, 2, 3, 4 lignes peuvent être remplacées par cette unique ligne-là, qui consiste à dire je fais la concaténation de tous les résultats de l'application de la fonction récursive qui, d'une certaine manière, m'aplatit les étiquettes sur chacun des arbres de la forêt qui se trouve ici. Donc voici en fait le calcul de l'AGLIS préfixe. Et si maintenant j'essaye de tout combiner en disant finalement maintenant j'écris le plus compact possible, eh bien voici la fonction AGLIS préfixe obtenue de façon très compacte avec des itérateurs. Et en fait ça dit quoi? La liste préfixe des étiquettes d'un arbre général G, c'est une liste qui commence par l'étiquette de G, puisque je suis en ordre préfixe, et qui est suivie par la concaténation de tous les résultats où on applique la fonction récursive sur chacun des arbres de la forêt du nœud courant. Et donc là, vous avez le one-liner encore, qui correspond effectivement, si on a des lignes assez grandes, à la possibilité donc d'écrire ceci sans aucune récursion apparente, qui consiste à dire je fabrique une liste avec l'étiquette et je concatène par, comment dire donc, happen, je concatène toutes les listes préfixes de chacun des arbres de ma forêt. Donc voici, encore une fois, les deux fonctions vues sous la forme des itérateurs ou sous la forme récursive, je dirais, explicite au transparent précédent pour, effectivement, faire ces calculs d'arbres-là. Alors maintenant, le dernier point, ça va être de regarder un traitement un peu particulier permettant de visualiser des arbres de manière un peu plus évidente que par AG expression que vous avez. Je vous montre le transparent. Ici, vous avez un arbre général avec des nœuds, etc., des fils en nombre quelconque. Et ce que je voudrais produire, c'est la chose qui se trouve ici, qui est un paragraphe et dans lequel, en fait, on représente la structure de l'arbre d'une manière un petit peu différente. Donc, regardez comment ça se passe. Vous avez ici un nœud à profondeur 0. Vous le voyez apparaître ici. Vous avez des nœuds de profondeur 1 qui sont 5, 1, 3 et 2. Et chaque fois qu'un nœud est à profondeur 1, il apparaît avec un unique tiret. Donc, voici 5, le premier fils, il est là. Voici 1, le second fils, il est là. Voici 3 et 2, les deux derniers fils, les voici ici. Maintenant, vous voyez que 5, le premier fils qui est là, il a lui-même deux fils qui sont 1 et 3. Eh bien, ils sont préfixés avec tiret-tiret pour indiquer qu'ils sont à profondeur 2. Et vous avez le premier fils de 5 là et le second fils de 5 ici. Maintenant, 1 ici, qui se trouve ici, a lui-même 1, 2, 3 fils qui sont 2, 3 et 4, qui sont à profondeur 3 et qui apparaissent ici. Donc, d'une certaine manière, ceci est une représentation graphique, enfin plutôt graphique textuelle du même arbre, mais vu sous une forme, comment dire, lisible en termes, je dirais, de texte, alors que ceci est une représentation graphique plus compliquée. Et donc l'idée maintenant, c'est de dire, j'aimerais bien avoir une fonction qui, quand je lui donne un arbre comme ça, est capable de me le sortir sous cette forme-là, ce qui me permet de le visualiser peut-être mieux. Alors en penchant la tête comme ça, vous pouvez essayer de voir que cet arbre-là correspond à une forme graphique extrêmement dégradée, mais fidèle, de l'arbre qui est beaucoup plus joliment écrit ici. Fabriquer des arbres graphiques comme ça, c'est beaucoup plus compliqué en graphique, donc pour l'instant, on vous le demande pas, il faut faire des études avancées pour faire ça. Bien, par contre, ceci est tout à fait, comment dire, licite, et surtout permet de travailler sur n'importe quel arbre, que ce soit ceci ou les arbres binaires. Et c'est donc ce que l'on va voir maintenant. Alors, voici un premier type de solution qui utilise une fonction tiret qui se trouvait dans les transparents de la fois dernière, dont je rappelle aussi que tous les transparents sont sur le réseau pour ceux qui les veulent. Et ils sont en général entre 1 et 2 jours avant le cours, donc vous pouvez les imprimer chez vous pour les annoter si vous le souhaitez. Donc la fonction tiret est une fonction qui dit, si vous me donnez une chaîne de caractères, je vous rends la chaîne de caractères avec un tiret devant. Donc si vous lui donnez la chaîne de tiret A, elle vous rend la chaîne tiret A. Si vous lui donnez la chaîne -A, elle vous rend la chaîne -A. D'accord ? Alors regardons le code qui est là. Ce que l'on me demande, c'est de prendre un arbre général et de le transformer en ce fameux paragraphe que j'ai vu sur le transparent précédent, qui me montre la structure de l'arbre qui est ici. Donc, AG affichage a comme spécification de dire je prends un arbre général et je fabrique un paragraphe. Rappelez-vous que les fonctions, les paragraphes sont des structures de données représentées par les chaînes de caractères, mais ça vous n'avez pas à le savoir, et ces structures de données représentent en fait un paragraphe, une suite de lignes. Chacune des lignes correspondant effectivement à quelque chose qui apparaît sur une seule ligne physique de votre écran. Les fonctions qui permettent de manipuler les paragraphes ne sont pas nombreuses, vous les avez dans la carte jaune. Vous avez la fonction paragraphe qui dit si vous me donnez une liste de lignes, je vous rends un paragraphe. Vous avez la fonction qu'on ne voit pas ici qui s'appelle paragraphe-ligne qui dit si vous me donnez un paragraphe, je vous fabrique la liste des lignes qui sont dans le paragraphe. Vous voyez donc là le constructeur et d'une certaine manière le sélecteur qui permet de voir ce qu'il y a dedans. Vous avez un utilitaire qui s'appelle paragraphe-append qui dit si vous me donnez deux paragraphes, je vous les concatène ensemble pour former un unique paragraphe. Et c'est à peu près toutes les fonctions qui travaillent sur les paragraphes. Il y en a une qui doit s'appeler paragraphe vide, qui vous fabrique le paragraphe qui ne contient rien, qui doit se trouver dans la carte jaune, je crois. Alors allons-y. Puisqu'il s'agit de fabriquer un paragraphe, je fabrique un paragraphe. Le paragraphe prend comme argument la liste des lignes du paragraphe. C'est-à-dire que paragraphe, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui dit, si vous me donnez des lignes, je vous les concatène verticalement, je vous les empile verticalement pour faire un paragraphe. Sachant que la ligne, c'est un empilement horizontal de caractères. Donc là, les caractères, vous les collez horizontalement pour former des lignes, puis quand vous avez des lignes, vous les rassemblez en des listes de lignes, et quand vous avez des listes de lignes, vous les concaténez pour faire des paragraphes, c'est-à-dire des empilements verticaux de lignes. Donc je dois fabriquer un paragraphe où la première ligne, c'est en fait l'étiquette du premier nœud qui se trouve ici. L'étiquette étant a priori de nature quelconque, ça peut être un nombre, ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être un dessin, un booléen, une fonction, ce que vous voulez. J'applique un opérateur qui a été donné en même temps que les paragraphes, qui est un opérateur à tout faire, qui dit l'opérateur flèche string prend n'importe quoi et me ramène une chaîne de caractères représentant ce n'importe quoi. Donc dans le cas d'un nombre, il vous rend la chaîne de caractères qui représente le nombre, dans le cas d'une chaîne de caractères, il vous rend la chaîne de caractères même, et dans le cas de structures plus compliquées, il s'arrange pour vous fabriquer une chaîne de caractères lisible. Donc ceci permet de dire je prends un nombre, une chaîne, ce que vous voulez, et de le traduire sous la forme d'une ligne formée de caractères ici. Donc ceci permet de dire, quand j'ai l'arbre binaire qui se trouve ici, je suis capable de fabriquer un paragraphe qui est découpé comme ceci. J'ai donc une première ligne qui est une première ligne qui est ceci, et donc ici je fabrique une première ligne qui correspond à A. Maintenant, derrière, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le traitement de toute la forêt qui se trouve en dessous de A. Mais cette forêt qui se trouve en dessous de A, qu'est-ce qu'elle va être? Eh bien, d'abord, je sais que la forêt en dessous de A sera forcément à une profondeur d'au moins 1. C'est-à-dire qu'elle sera forcément préfixée, elle commencera forcément par un tiret. Et donc, d'une certaine manière, je sais que derrière, j'aurai un tiret, et je vais avoir, je le représente sous cette forme-là, le dessin de chacun des arbres, qui sont l'arbre B, l'arbre C, C, E, F, et l'arbre D, qui se trouve ici. C'est-à-dire que mon dessin, en fait, est fait sous la forme de A et d'un tiret qui préfixe le traitement des trois sous-arbres de la forêt de A. Maintenant, comment je traite ces choses-là? Eh bien, c'est simple. J'ai une fonction qui sait traduire un arbre, quel qu'il soit, en un paragraphe. C'est justement la fonction sur laquelle je suis en train de travailler. Donc, il faut que je convertisse chacun des arbres, ici, en un paragraphe qui corresponde à la vision de cet arbre-là. Donc, ceci, en fait, je vais le traduire en un paragraphe, c'est le paragraphe B. Ceci, je vais le traduire en un paragraphe, c'est le paragraphe C-E-F. Et celui-ci, je vais le traduire en un paragraphe, qui est le paragraphe D. D'accord ? J'applique simplement ma fonction récursive. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Maintenant que j'ai tous ces paragraphes-là, arbre par arbre, je les concatène ensemble. C'est-à-dire, je fabrique le paragraphe comme ça. Et ce que j'ai dit, c'est que je mettais un tiret devant. Donc, en fait, maintenant, je vois le résultat final. C'est A, tiret B, tiret C, tiret tiret E, tiret tiret F, tiret D, et j'ai terminé. Donc, voyez en fait que ce que j'ai fait, c'est que je sors la première ligne, j'applique mon opérateur qui me transforme mes arbres en paragraphes sur chacun des sous-arbres de ma forêt, je concatène, je les colle verticalement pour fabriquer un paragraphe, et je colle devant un tiret pour le décaler d'une certaine manière d'un cran vers la droite. Et j'obtiens en fait ceci. Et ceci en fait a comme structure ce que j'ai essayé de représenter à cet endroit-ci. Ce dessin-là a comme structure, en fait, le fait que, un, j'ai traité l'étiquette et je traite la forêt. Deux, je traite la forêt en rajoutant tiret devant. Et maintenant, je traite chacun des sous-arbres, c'est-à-dire celui-ci, celui-là et celui-ci. Donc j'ai un sous-arbre ici, j'ai un sous-arbre là et j'ai un sous-arbre ici. Et donc voyez en fait que d'une certaine manière, en collant horizontalement, puis verticalement et en préfixant par des tirets, j'obtiens bien l'image complète que je souhaitais. La seule, comment dire, difficulté, c'est effectivement de voir que dans le schéma qui se trouvait ici, et par rapport à la structure de l'arbre qui se trouve ici, en fait, la bonne vision, ou du moins une bonne vision, c'est de dire, c'est comme ça en fait que l'image se construit. Elle se construit avec une première ligne et un ensemble de paragraphes soudés verticalement que je préfixe d'un tiret. Alors là, effectivement, il faut un petit peu d'intuition géométrique pour effectivement arriver à penser à ça. Alors maintenant, en fait, la vision géométrique qui est là, il suffit de la coder et ça devient trivial. Je fabrique un paragraphe dont la première ligne, c'est l'étiquette de G. Et, rappelez-vous que je dois mettre un tiret devant tout ce qui suit. Je dis, je mets un tiret devant la liste de tout ce qui suit. Tout ce qui suit, c'est quoi? C'est en fait de dire, j'affiche la forêt. Afficher la forêt, c'est afficher ce truc-là, c'est-à-dire les trois arbres qui sont là. Afficher la forêt, c'est donc le résultat de ça. Ça me fabrique un paragraphe, je le convertis en des lignes ici, et j'ai donc toutes ces lignes-là, je les préfixe par des tirets, et avec cette ligne-là et toutes les lignes que j'ai préfixées par des tirets, je refabrique un paragraphe. Donc, avec cette ligne, avec ce paragraphe qui correspond à la concaténation verticale du traitement de chacun des sous-arbres, j'obtiens ce paragraphe-ci. Ce paragraphe-là, maintenant, je le convertis en une liste de lignes. Pour chacune des lignes, je rajoute un tiret devant avec map tiret. Puis, avec cette ligne-là et toutes les lignes avec lesquelles j'ai mis un tiret, je refabrique le paragraphe total qui se trouve ici. Donc maintenant, la seule chose qui me reste à faire, c'est de dire comment traitais-je le fait ici d'afficher une forêt. Afficher une forêt, c'est dire j'ai une liste d'arbres, et je veux fabriquer la concaténation verticale de leur image par la fonction qui permet de les afficher. Eh bien, c'est encore une récursion sur des listes qui consiste à dire, pour afficher une forêt, si la forêt est vide, c'est le paragraphe vide, et si la forêt n'est pas vide, c'est la concaténation verticale paragraphe append de l'affichage du premier arbre et de l'affichage de tous les autres arbres de la forêt. Et donc là encore, vous retombez sur le même balancement, à savoir, Ici, vous combinez l'affichage d'un arbre avec l'affichage de la forêt de tous les autres arbres. Vous les concaténez verticalement. Le final, c'est la liste vide. Vous obtenez ici donc un paragraphe que vous convertissez en énigme, vous rajoutez des tirets devant et vous reconcaténez en faisant un unique paragraphe. Donc voici en fait l'essence d'une des solutions possibles pour tout ça. Alors, je vais vous donner un certain nombre de variantes qui permettent de voir le même affichage sous des formes un peu différentes. D'abord, bien sûr, vous pouvez utiliser des itérateurs, c'est-à-dire des maps et des reduce, pour simplifier d'une certaine manière, ou du moins diminuer la taille du code particulier. Par exemple, l'affichage d'une forêt, c'est simplement la combinaison par paragraphe append, en partant du paragraphe vide, de tous les affichages de tous les arbres de la forêt. Et donc, l'affichage de la forêt peut s'écrire sous la forme de cette fonction-là. Le reste ici n'a pas changé, c'est donc une simple variante où la fonction interne est écrite en termes de paragraphe append. Maintenant, vous pouvez dire, la fonction interne a une propriété particulière ici que, regardez comment elle s'appelle, elle s'appelle AG affichage forêt. AG affichage forêt n'est pas récursive puisqu'elle n'apparaît pas dans sa propre définition. Elle n'apparaît qu'en un seul endroit, c'est-à-dire ici. À quoi sert de fabriquer une fonction qui n'est utilisée qu'à un seul endroit ici? Autant prendre sa définition et la mettre à l'endroit où j'en ai besoin. Ça conduit donc à ceci, à savoir, donc directement, c'est un paragraphe où je mets la première ligne qui correspond à l'étiquette et je vais avoir du mal à finir, excusez-moi, et où je préfixe d'un tiret, et là je retrouve le code de AG forêt qui se trouve ici. Donc, voyez que le code se simplifie maintenant, en ce sens qui devient plus compact. Et je vais vous donner encore un autre algorithme qui tient sur deux fonctions particulières et qui consiste à dire, en fait, il y a une autre façon de faire qui correspond à un découpage de l'arbre un petit peu différent. Vous voyez en fait que quand j'ai mon arbre ici et que je le parcours, le nombre de tirets dépend de la profondeur du nœud courant. Donc d'une certaine manière, vous pourriez dire, je parcours l'arbre en mémorisant à chaque fois à quelle profondeur je suis. Donc en gros, si je reprends le dessin, ça correspond à un parcours où, à tout nœud, on a une information supplémentaire qui est à quelle profondeur suis-je. Et l'idée est que si je sais à quelle profondeur je suis, alors le nombre de tirets est exactement égal à la profondeur que l'on me demande. Ce qui veut dire en fait que, si je retrouve une craie blanche, dessiner l'arbre général, c'est dire je dessine A, et ensuite, je dois traiter la forêt, donc particulière qui est la forêt B, puis la forêt C, E, F et la forêt D, sauf que cette forêt est traitée avec un niveau 1, que je vais marquer comme ça, cette forêt se traite avec un niveau 1, et cette forêt se traite avec un niveau 1. D'accord ? Pour traiter, en fait, lorsque je veux sortir l'étiquette d'un nœud, je préfixe l'étiquette avec le nombre de tirets correspondant à la profondeur. Donc quand je traite ce nœud-là, je dis il est à profondeur 1, il n'a pas de feuille, donc je sors tiret B. Pour traiter cet arbre-là, je dis la chose suivante. Cet arbre-là, en fait, correspond à quoi? À traiter C avec le niveau 1, donc je traite C, mais je dois mettre derrière le traitement de la forêt E à niveau 2 et de la forêt F à niveau 2. Puis ensuite, je traite D, qui est à niveau 1, donc je sors D. Et maintenant, pour traiter E à niveau 2, je sors tiret tiret, puisque je suis à profondeur 2, E, et ici F, tiret tiret, F, puisque je suis à profondeur 2. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à concaténer tout ça, et j'obtiens mon résultat final. Exactement le même que celui-ci. Et donc là, vous voyez en fait que, en mémorisant en fait à tout instant à quelle profondeur je suis toujours capable de savoir de combien de tirets je dois préfixer les lignes que je sors, de manière à être correct. Puisqu'en fait, à chaque fois, le nombre de tirets est égal à la profondeur de l'arbre où je suis. Donc en fait, la fonction récursive, au lieu de prendre simplement un arbre général ou une forêt, elle prend systématiquement l'arbre et la profondeur, la forêt et la profondeur. Donc traiter cette forêt-là à profondeur 1, je traite cette forêt-là à profondeur 2, et quand je dois traiter une forêt à une certaine profondeur, je traite chacun des arbres de la forêt à cette profondeur-là exactement. Du coup, l'intérêt, c'est qu'en fait, cet algorithme-là est plus efficace que le précédent, parce que chaque fois que vous sortez une ligne, la ligne est correcte. C'est-à-dire que le seul traitement qu'il y a à faire pour fabriquer le paragraphe total, c'est simplement de concaténer les lignes verticalement. Chaque fois qu'une ligne est produite, elle est complète. Alors que dans le cas qui était là, vous voyez bien que par exemple, quand j'avais fabriqué la représentation de l'arbre CEF, j'ai obtenu en fait ceci, et ceci en fait, il a fallu que je mette un tiret devant pour arriver à fabriquer la vraie définition finale. Donc en fait, on voit ici que je fabrique des lignes, mais il se peut que je rajoute des tirets devant pour fabriquer la bonne profondeur. Ici, je fabrique toujours des lignes correctes, et je n'ai plus qu'à les concaténer verticalement pour obtenir mon résultat. Et il se trouve que fabriquer des lignes en rajoutant des tirets devant, c'est une opération qui coûte cher en fait dans la machine, et donc il vaut mieux produire des lignes directes à l'emploi que des lignes qui seront reprises elles-mêmes par des fonctions qui les préfixeront par des tirets. Donc je vous laisse regarder le code, vous l'avez sur le réseau, et je vais ménager ma voix pour le reste. Merci, à la semaine prochaine.